bonjour donc à nos invités habituels de France Nature Environnement qui réalisent entièrement cette émission.
Bonjour Odile, merci beaucoup. Je suis Lisa Cunier de France Nature Environnement 04, chargée de mission et d'animation.
Bonjour Odile, Kelilia Aitaudia, je suis stagiaire sur France Nature Environnement du 04.
Et en effet, nous sommes là aujourd'hui pour animer, comme d'habitude, un moment pour la Terre. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre projet que nous avons en cours, le projet de la plantation d'une micro-forêt. Nous, France Nature Environnement 04, je voudrais juste rappeler, au cas où pas tout le monde s'en
connaît, oui.
Donc nous sommes la fédération départementale des associations de protection de la nature. Nous agissons sur tout le département des Alpes-de-Haute-Provence, des fois au-delà, en cas de besoin, en cas où nos intérêts sont touchés d'une façon ou d'une autre, où on peut contribuer à la protection de l'environnement ailleurs également. On est toujours très content d'intervenir. Et nous agissons sur toutes les thématiques en lien avec l'environnement qui sont présentes sur notre département. Donc nous travaillons sur tout ce qui est déchets, énergie, eau, rivières, biodiversité, montagnes, beaucoup de sujets différents. Et aujourd'hui, nous sommes là pour notamment parler un peu plus en détail de la biodiversité. Alors, pourquoi en général on travaille sur cette thématique et on essaye de mettre en place des projets et de faire des choses concrètes? Comme on en a parlé déjà dans notre émission de juin 2021, la biodiversité aujourd'hui malheureusement est en déclin. Donc c'est reconnu dans le monde entier. Et malheureusement, ça se produit à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, on estime qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont en voie de disparition, en tout cas sont menacées. Et du coup, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales pour laquelle ça se produit, c'est l'agriculture intensive. Donc c'est une pratique qui peut transformer des paysages autrefois très variés, composés de petites parcelles, de petits habitats très différents. Cette pratique peut les transformer en terrain très homogène, uniforme, sans habitats différents, donc qui n'est pas vraiment très propice à la présence de beaucoup d'espèces végétales ou animal, évidemment, ça crée un peu un cercle vicieux où pour réintroduire la biodiversité sur ces terrains-là, il faut partir du sol, il faut restaurer les sols pour qu'ensuite les plantes retournent. Voilà.
Alors, il y a eu des efforts de fait au niveau pour cette biodiversité en ne taillant pas trop les bords de route, les herbes hautes, parce que ça fait disparaître aussi.
Oui,
donc il y a quelques petites choses qui sont mises en place, peut-être pas suffisamment.
Oui, oui, oui. Alors je ne dis pas que tout va mal aujourd'hui, même si la grande tendance pour l'instant, malheureusement, ça reste la même, mais comme on peut le remarquer, que ce soit au niveau des communes, des intercommunalités, au niveau du département, il peut y avoir des actions de mise en place pour favoriser la présence de la biodiversité. Et du coup, on croit en effet que de toute façon, ce sont des actions qui nous touchent tous, ce sont des actions communes à porter. En effet, ne pas couper les haies, ou en tout cas faire attention au moment où on coupe les haies, ça peut être très important, notamment pour les oiseaux pendant leur période de nidification. Ne pas couper les herbes sur la pelouse, ou en tout cas couper moins souvent, ça peut favoriser aussi le maintien des sols en bon état, puisque aussi comme on l'a dit la dernière fois, quand on coupe tout en été, après notre pelouse a un peu la tendance de brûler, de devenir toute marron, aussi ça favorise la présence des insectes, donc de la biodiversité dite ordinaire, que ce soit chez nous ou sur les terrains de la ville. Et évidemment, au niveau de FNE 04, on voulait aussi s'impliquer, comme d'habitude, on veut aussi participer, on veut mettre en place les actions. Donc c'est pour ça que aussi la dernière fois, on parlait de notre butinerie, de cet espace de préservation de la biodiversité. On essaie de mettre en place des aménagements concrets, des aménagements facilement reproductibles que chacun peut faire chez soi pour favoriser la présence de la biodiversité chez soi. Et aussi, on s'est posé la question de comment on pourrait essayer d'améliorer cette situation avec certaines anciennes terres agricoles qui peuvent être touchées par l'épuisement du sol ou par la culture intensive. Et on a voulu faire une expérimentation et reboiser une petite parcelle, une petite partie du terrain à côté de la butinerie. Mais bon, reboiser, évidemment, tout de suite, la question se pose, comment faire bien ? Comment faire de façon à ce que ce ne soit pas juste du greenwashing, où on plante des arbres pour planter des arbres, mais comment bien reboiser ?
Oui, comme tu le dis, Lisa, malheureusement, reboiser, planter des arbres n'est pas une solution miracle, n'est pas une solution universelle pour les problématiques environnementales. Avant de reboiser, les projets sont très réfléchis. Il faut vraiment savoir pourquoi on reboise, quelle espèce reboiser, comment faire le reboisement et où est-ce qu'on peut reboiser. On ne peut pas planter des espèces invasives et se dire que ça va améliorer les choses pour la biodiversité ou les écosystèmes. Ça va faire l'effet complètement inverse. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que planter des arbres va compenser les impacts de certains projets humains sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Ce n'est pas du tout une solution. Donc avant de reboiser, c'est vraiment des projets qui sont réfléchis. Il faut qu'il y ait du sens au fait de planter des arbres.
Justement, on a cherché le sens dans la plantation, dans le reboisement. Et c'est ça qui nous a amené à étudier une méthode qui est innovante, et une méthode qui s'appelle Miyawaki. Alors, la méthode Miyawaki, jusque-là, c'était surtout principalement utilisée dans le milieu urbain pour faire pousser les forêts rapidement. Donc, pour créer des petits îlots de biodiversité dans les villes où on en manque tant, pour apporter de la biodiversité, mais aussi de la fraîcheur, pour aider à reconnecter les gens à la nature. Mais la question que nous nous sommes posées, c'est est-ce que cette méthode pourrait également être utilisée, est-ce qu'elle pourrait être intéressante à utiliser sur les anciennes terres agricoles pour essayer de les réhabiliter. Quand les terres sont épuisées, quand il ne reste plus beaucoup de matière organique là-dedans, quand on a du mal à faire pousser naturellement quelque chose sur ces terres, où on a vraiment besoin d'un travail supplémentaire, beaucoup plus poussé du sol pour essayer de faire pousser quelque chose sur ces sols appauvris, est-ce que la méthode Miyawaki pourrait également être utilisée ? Mais alors, avant de répondre à cette question, ou en tout cas tenter de répondre à cette question, je voudrais aussi dire quelques mots sur la méthode elle-même, puisqu'on commence à en entendre parler aujourd'hui de cette méthode Miyawaki, mais je soupçonne que pas tout le monde sait exactement
oui,
en quoi
moi,
ça consiste.
Justement, je voudrais bien savoir en quoi consiste cette méthode au drôle de nom.
Bon, Miyawaki, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous viennent du Japon, du coup avec les noms japonais qu'on commence à utiliser, surtout nous par rapport aux déchets, on commence à faire les emballages cadeaux en tissu furoshiki, on commence à fabriquer des éponges tawashi, et maintenant la forêt Miyawaki. Alors déjà pour commencer, le docteur Akira Miyawaki, c'était un botaniste japonais. Bon, malheureusement il est décédé l'an dernier, mais à l'âge de 93 ans, et pendant toute sa vie, il a travaillé sur les forêts, sur l'écologie des forêts. C'était également spécialiste des graines. Et surtout, il étudiait les forêts naturelles, les forêts, les forêts indigènes. Donc les forêts qui sont censées naturellement être présentes sur un tel ou tel terrain. Donc lui, il a évidemment beaucoup étudié les forêts au Japon. Mais ces études peuvent nous être très utiles pour travailler ailleurs. Et notamment, lui, il soulignait toujours que les forêts sont essentielles à la survie de l'humanité. Et il appuyait Il essayait de promouvoir l'urgence de préserver et de restaurer, en cas de besoin, les forêts. On est bien d'accord que le mieux, c'est de préserver. Mais si c'est trop tard, bah, comment les restaurer ? Ce que lui, il a commencé, il a développé, c'est une méthode qui permet de refaire pousser les forêts qui ressemblent à des forêts natives de la région et qui poussent plus rapidement que les forêts plantées selon les méthodes de reboisement, on va dire classiques. Alors, la méthode consiste surtout en trois choses très importantes. D'abord, il faut bien préparer le sol. Puisque comme on a dit, que ce soit dans le milieu urbain ou nous dans le milieu rural, mais on va essayer de replanter surtout et avant tout sur les sols qui sont déjà appauvris. Donc il faut bien apporter de la matière organique pour que les jeunes plants qu'on va y mettre, pour qu'ils puissent bien s'enraciner, bien développer leur système racinaire et se sentir bien dès le début, dès la première année. Donc c'est très important. On va amender les sols, on va apporter de la matière organique, mais évidemment en utilisant au maximum les ressources, ce qu'on peut trouver localement. Donc ça peut être le compost produit localement, ou le broyat, ou de la paille. Ça, on va en discuter après. On aura encore une autre émission qui sera consacrée à notre retour d'expérience sur cette plantation. Mais en tout cas, le travail du sol, très important pour préparer la base. Ensuite, on fait une plantation très dense des arbres. Très dense, il s'agit de 3 arbres au mètre carré. Donc là, beaucoup de gens vont se dire que...
Oui, il n'y a pas la place pour que l'arbre se développe.
Alors, en fait, si. Oui. Il va avoir de la place puisque, évidemment, ce ne seront pas tous les grands arbres qu'on va planter. Il y a une réflexion à mener avant. Il faut trouver une bonne proportion donc, entre les arbustes, ce qu'on appelle les arbres de basse tige et les arbres de haute tige. Donc, haute tige, donc, ce sont vraiment les grands arbres. Il va en avoir moins que des autres. En fait, l'intérêt de faire une plantation aussi dense, donc déjà, on favorise la communication racinaire entre les arbres. Donc aujourd'hui, on en apprend de plus en plus. On sait que les arbres peuvent communiquer à travers les racines, et se transmettre les informations et même des fois s'entraider. Donc là, ça va favoriser ce côté-là. Ça va limiter aussi la propagation des herbes adventices et des graminées qui risquent d'étouffer, en tout cas pendant les quelques premières années, les jeunes pousses, les jeunes plants. Et en plus, en fait, ça va créer une situation de concurrence vertueuse pour la lumière. Ça va stimuler, ça va motiver, entre guillemets, les arbres à pousser plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit que cette méthode de reboisement, ça va être plus rapide qu'une plantation classique. Et aussi, évidemment, le troisième point, le point clé, c'est la diversité des arbres. Donc, sur un petit terrain, la méthode Miyawaki est d'habitude utilisée sur des petits terrains entre 200 et 3000 mètres carrés. On va choisir entre 15 et 30 espèces, mais avant tout, on va étudier les forêts aux alentours de ce terrain et on va essayer de voir quelles espèces sont naturellement présentes, quelles espèces sont adaptées à la région, quelles espèces sont locales, natives de cette zone. Natives, ça veut surtout dire qu'elles sont vraiment bien adaptées aux conditions climatiques qu'on va avoir. Et du coup, on va choisir entre 15 et 30 espèces, donc toujours en gardant en tête une partie arbuste, une partie basse tige, une partie haute tige. Et c'est ça qu'on va essayer de replanter, parce que du coup, c'est cette diversité-là qui va créer les conditions favorables à la pousse de ces jeunes plants et qui normalement va faire de façon à ce que 3 ans après, la forêt sera tellement dense qu'on ne pourra plus rentrer dedans, mais à l'intérieur, grâce à cette diversité d'espèces et de types d'arbres différents, ça va créer des conditions vraiment nécessaires et favorables pour beaucoup d'espèces animales qui pourront s'y installer et ça va également améliorer les conditions de vie dans le sol et favoriser la présence aussi de la biodiversité dans le sol. Donc, on verra quelques ans après ça ce que ça va nous donner. Je vous propose de faire notre première pause musicale, ben justement pour parler de nos campagnes. On l'écoute tout de suite.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Et voilà, de retour dans cette émission Un moment pour la Terre avec Lisa Cunier et Kelilia
Aït Aoudia. Alors, ben, en effet, donc, on a voulu parler de nos campagnes et de comment on pourrait favoriser la présence ou le retour de la biodiversité dans nos campagnes. On a commencé à parler de cette méthode Miyawaki. Et comme je l'avais dit au début, initialement, ces méthodes, c'était surtout pour les villes. Parce que c'est vrai que dans les villes, quand d'abord on a tout bétonné et qu'ensuite on se pose la question de comment on pourrait faire retourner la biodiversité au milieu de la ville, puisqu'en plus, avec les changements climatiques, les étés où on a souvent des températures qui montent, ben, on a besoin de ces îlots de fraîcheur, on a besoin de cette présence des forêts, de cette présence végétale et animale aussi. Du coup, il y a eu, en tout dans le monde, je crois qu'il y a eu plus de 3000 forêts Miyawaki qui ont été créées aujourd'hui, mais quand même beaucoup, principalement en ville. Alors nous, on s'est posé la question de, est-ce qu'on pourrait adapter cette méthode, en tout cas, est-ce qu'on pourrait utiliser cette méthode sur les terrains ruraux? Évidemment, on a eu beaucoup de critiques, beaucoup de questionnements, parce que dès qu'on dit aux gens qu'en effet on veut planter 3 arbres au mètre carré, on a beaucoup de critiques et de doutes, mais qui ont le droit d'être en retour. Et du coup, c'est pour ça que c'était très important pour nous de ne pas juste commencer à faire quelque chose par nous-mêmes, mais aussi d'essayer d'avoir le retour d'expérience des autres.
Oui, tout à fait. Donc, des expérimentations similaires ont déjà été faites, comme a dit Lisa, en majorité, c'est urbain, mais il y a des expérimentations qui ont été faites aussi en milieu rural. Et nous avons contacté ces organismes et ces associations justement pour avoir leur retour d'expérience et avoir une base de travail en fait du projet. Donc par exemple, il y a Cœur et Canopée qui ont planté 300 mètres carrés en mars 2020 dans le Jura. Nous avons eu aussi le retour d'expérience de Colibri Forest qui ont planté 100 mètres carrés aussi dans le Bas-Rhin. Et l'association Projet Silva qui avait planté 5000 arbres de 30 essences, dont deux prairies de 5000 m² dans le Tarn. Donc tous ces retours d'expérience ont permis justement de motiver le projet et d'avoir cette base de travail par la suite.
En effet, c'était des informations très importantes pour nous, puisque même avant de commencer ce projet, on se posait beaucoup de questions, on a découvert ces méthodes, on a trouvé que c'était intéressant, on a voulu expérimenter ça pour ensuite en faire un retour d'expérience sur le milieu rural dans notre région, mais beaucoup de questionnements par rapport à comment faire. Donc déjà le terrain qu'on avait choisi par exemple, il y avait déjà des arbres qui poussaient dessus, donc la question c'était... Bon, on ne voulait vraiment pas couper les arbres qui poussent déjà, qui sont déjà bien, qui sont déjà adaptés au terrain. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour nous. Et du coup, c'est grâce au retour d'expérience de ces associations, grâce à leurs conseils, qu'on a compris que, non, en effet, l'objectif, ce n'était pas d'enlever les arbres, mais de compléter là où il y avait le manque. Donc du coup, on a pris la décision de garder les arbres qui poussaient déjà, ce qui fait que nous avons le terrain de 200 mètres carrés et en tout, on a un peu plus de 100 mètres carrés sur lesquels nous allons planter. Le reste, c'est en fait, c'est la surface des houppiers des arbres existants. Et du coup, c'est cette surface-là qu'on ne va pas toucher, notamment pendant le travail du sol, pour ne pas abîmer leurs racines. Donc, il nous reste quand même 315 arbres à planter sur 200 mètres carrés. Et du coup, on va faire ça en deux chantiers. Le premier chantier va avoir lieu le 8 novembre donc à la butinerie au pont du Pâtre à Villeneuve. Là, on va préparer le sol. Ce sera le travail du sol. Nous allons faire venir le compost pour amender le sol, puisque, alors là, récemment, ce terrain n'a pas été utilisé, mais c'est aussi un ancien terrain agricole. Donc, on a fait l'analyse du sol. On a vu que le sol était plutôt homogène. On ne voyait pas l'horizon avec l'humus, pas vraiment très présent. Donc, voilà, c'était déjà les sols travaillés, retournés avant. Donc là, il faudra vraiment apporter de l'humus pour que les plants puissent bien s'implanter, s'installer quand on les aura plantés. On va rajouter aussi du broyat, du paillage pour que ce terrain soit favorable à ces jeunes plants. Et ensuite, les 2 et 3 décembre, on va faire un grand chantier participatif où on invite tout le monde à venir nous aider, donc avec les fameux 315 plants, arbustes, bastiges, hautes tiges, il y aura vraiment de quoi faire, où on va les planter, et ensuite, pendant l'année qui va suivre, on va surveiller comment ils vont pousser, on va refaire les analyses du sol après un an, après 2 ans, après 3 ans, puisque, comme j'ai dit, l'objectif, ce sera, on va essayer de produire aussi au maximum, autant qu'on peut, c'est vrai qu'on n'est pas les vrais scientifiques, mais si on peut produire des données qui peuvent être utiles aux scientifiques, qui peuvent devenir une vraie étude de faisabilité, d'utilité de la méthode Miyawaki dans un milieu rural, ben nous, on serait très contents que cette expérimentation donne lieu aussi à une étude et à des données scientifiquement prouvées. Donc pour nous aussi, c'est l'occasion d'inviter les gens, de leur proposer de faire quelque chose du concret, de pratique, de participer à la plantation, de toucher à la biodiversité, de découvrir plus de choses sur la biodiversité pendant qu'on va planter ces arbres. Et après, cette méthode en soi, ça peut aussi être réutilisé. On a déjà nos collègues du 05 avec qui on avait discuté et échangé, où il y a aussi un bénévole qui a un petit terrain et qui lui aussi, il voudrait faire une plantation Miyawaki sur son terrain. Donc on espère que ce sera quelque chose de reproductible. Alors je ne vais pas dire de facilement reproductible, parce que quand même planter les arbres, surtout en telle quantité, ce n'est pas quelque chose de très facile. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut devenir des petits projets locaux, des petits projets personnels pour avoir un petit terrain, un petit morceau de forêt à côté de chez soi et favoriser la présence de la biodiversité. Et donc c'est très important pour nous que les particuliers et les groupes soient invités. Donc là, on a envoyé les invitations aux écoles, aux entreprises, parce qu'on s'est dit que pour les entreprises, ça pourrait peut-être être intéressant si ça s'inscrivait dans leur démarche RSE. Et je laisse Kélilia nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que cette démarche RSE et à quoi elle sert.
Qu'est-ce que la RSE ? C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises ou la responsabilité sociale des entreprises. Donc pour résumer un petit peu, c'est d'appliquer le développement durable dans une entreprise ou un organisme. Donc c'est une démarche qui peut être mise en place par n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur ou son statut juridique. Celle-ci, donc, elle est basée sur trois piliers. Donc, on a le pilier environnement, donc, dans lequel l'entreprise va essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, par exemple, avec des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des actions d'économie d'énergie, avec des actions de réduction de déchets, d'utilisation d'énergie renouvelable, etc. Après, on a un pilier qui est un volet social qui est très important dans la RSE, donc celui-ci qui est plutôt axé sur les ressources humaines, donc sur tout ce qui est santé, qualité de vie au travail, la montée en compétences des collaborateurs, et etc. Et surtout le respect du droit de l'homme. qui est très très important. Ensuite, on a un côté économique qui est pour l'entreprise ou l'organisme de favoriser l'économie locale, donc avec des investissements locaux, des fournisseurs locaux et la transparence surtout envers ses clients, ses investisseurs et ses fournisseurs. Donc cette démarche peut être très importante pour les organismes et pour les entreprises parce que derrière, ça redore l'image de l'entreprise et qui devient plus attractive pour des clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette démarche et qui imposent à leurs fournisseurs de l'avoir aussi. Donc ça permet aussi d'élargir un peu son champ de travail. Ensuite, ça, l'entreprise devient aussi attractive par rapport aux salariés, au fait, les gens qui vont venir travailler chez eux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du sens dans leur travail. Donc, quand une entreprise est engagée, etc., elle va avoir tendance à plus attirer les candidats qu'une entreprise pas engagée. Et surtout, il y a des choses, il y a des règles de la RSE qui sont aujourd'hui obligatoires, obligées par le droit. Donc, certaines entreprises ont intérêt à les respecter plutôt que le contraire. Donc, le fait d'inviter ces entreprises locales au chantier participatif de la plantation de la microforêt peut complètement entrer dans cette démarche-là sur plusieurs volets, que ce soit le côté qualité de vie au travail, parce que ça va permettre aux salariés d'être présents sur un chantier, d'être en pleine nature, d'être sur le terrain, en fait. Et il y a aussi le côté créer un certain engagement des collaborateurs par rapport à cette démarche. En fait, c'est savoir des collaborateurs engagés. Et ensuite, il y a le côté environnemental. Ça va permettre justement aux salariés de découvrir la nature locale, vu que c'est des entreprises locales, découvrir la nature locale et être sensibilisés d'une certaine manière aux questions environnementales en général et aux questions sur la biodiversité, etc. Donc ça rentre complètement dans le champ d'une démarche RSE.
Évidemment, nous espérons aussi que cette démarche de la part des entreprises sera sincère dans le but vraiment concrètement de participer à la restauration d'un terrain, aux actions en faveur de la biodiversité. Et on a déjà au moins deux entreprises qui nous soutiennent là-dessus. Enfin, trois. Alors, il y a la fondation L'Occitane qui nous soutient financièrement, mais qui aussi a relayé ces informations auprès de ses salariés pour que les salariés de L'Occitane puissent venir participer à ce chantier. Il y a aussi l'entreprise Ephrem Fusion qui est à Villeneuve, qui est située juste en face de la butinerie, ou presque, qui a été intéressée depuis longtemps par ce qu'on faisait à la butinerie. Et donc, du coup, on sait qu'on aura aussi les salariés qui sont intéressés, qui pourront probablement venir. Et évidemment, l'entreprise Terdoc, avec qui on travaille depuis très longtemps, donc qui sont très intéressés par ce projet, par cette démarche, et qui vont le relayer aussi largement, que ce soit auprès de leurs salariés ou même auprès de leurs clients dans le magasin. Mais voilà, nous aimerions aussi poursuivre ce travail et pouvoir travailler aussi avec d'autres entreprises. Donc toutes les entreprises qui sont intéressées sont évidemment bienvenues à ce chantier. Et donc du coup, maintenant, pour faire une petite pause, mais aussi pour faire une transition vers la dernière partie de notre émission, on vous propose d'écouter la chanson Aux arbres citoyens.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
aux arbres citoyens,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Voilà, c'était donc Yannick Noah qui chantait « Aux arbres citoyens ».
Et justement, nous vous appelons tous « Aux arbres citoyens ». Donc, nous avons besoin d'aide et de support avec ce projet, puisque c'est vrai que ce projet-là de plantation de la microforêt, selon la méthode Miyawaki, pour nous, c'est quelque chose de très grand. C'est la première fois qu'on met en place ce genre de projet. Donc nous avons besoin de bras, nous avons besoin d'aide pour ces chantiers participatifs. Donc juste pour rappeler, pour faire un petit récapitulatif, le 8 novembre, nous allons avoir le chantier de préparation du sol. Donc c'est peut-être quelque chose d'un peu moins intéressant parce que bon, on va juste avoir les mains dans le sol et dans le compost et dans le broyat. Mais surtout, nous avons besoin d'aide les 2 et 3 décembre pour le chantier participatif de plantation. Donc, où, comme j'ai dit, 315 plants à planter, on aura vraiment besoin d'aide. Donc, tout le monde qui a envie, tout le monde qui est intéressé et qui peut, tout le monde est bienvenu. On n'est pas obligé de s'engager sur 2 jours ou même pas sur une journée entière. Donc, si vous allez sur notre site, vous allez trouver le formulaire d'inscription au chantier où vous pouvez choisir juste une demi-journée, un créneau qui vous convient, où vous êtes disponible. Bah, vous pouvez juste vous inscrire sur ce créneau-là, il n'y a aucun problème. Pour nous, bien au contraire, ce sera avec, avec un grand plaisir qu'on va vous accueillir sur le terrain. Si vous avez envie de planter un arbre, bah, venez planter un arbre, mais il sera là que vous allez planter concrètement dans de la terre. Voilà, tout le monde peut s'inscrire. Nous vous invitons vraiment à aller voir sur notre site si le sujet vous intéresse. Alors aussi, si vous n'avez pas le temps mais que vous avez quand même envie de soutenir ce projet, bien évidemment vous pouvez le faire. Actuellement, nous avons une campagne de dons qui est en cours jusqu'au dernier jour de plantation, jusqu'au 3 décembre. Et la campagne s'appelle, ça nous permet de parrainer en arbre ou plus si vous avez envie. Donc vous pouvez donner une petite somme symbolique. Alors je suis désolée, il n'y aura pas de panneau sur l'arbre même, puisque comme on a dit, 3 ans plus tard, on ne pourra plus rentrer dans cette forêt. Mais on va avoir un panneau avec les noms des donateurs à l'entrée de la micro-forêt pour mettre en avant. Donc c'est un parrainage pour nous aider à avoir les plans, à faire tout ce travail nécessaire et à entretenir un tout petit peu, un minimum, entretenir ces plans après, puisque normalement aussi l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne demandera pas beaucoup d'intervention humaine que pendant les quelques premières années, 2-3 premières années pendant lesquelles les plants sont vraiment plus sensibles et fragiles. Mais une fois que les arbres sont bien installés sur le terrain, ensuite il n'y aura plus besoin de nous et de notre entretien. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à aller sur notre site si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie de parrainer un arbre ou de nous aider avec notre projet de plantation de la microforêt. Donc ça sont nos prochaines dates en lien avec la plantation. Mais aussi, pour revenir à la chanson, aux arbres citoyens, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Je laisse la parole à Kélia.
Oui, aux arbres citoyens, donc c'est le nom de l'émission de France 2 du 8 novembre à 21h. Donc c'est une émission qui est en partenariat avec France Nature Environnement. Celle-ci sera consacrée donc à la sensibilisation et à l'appel aux dons pour soutenir le projet de régénération forestière. Et aussi, elle va permettre aux téléspectateurs de s'interroger, de comprendre la place et l'importance des forêts dans l'indispensable transition écologique pour construire un monde vivable. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder cette émission. Donc, ça sera sur France 2 le 8 novembre à 21h. Elle sera présentée par Léa Salamé et Hugo Clément.
Ce sera l'occasion de découvrir les projets qui existent déjà, peut-être d'imaginer de futurs projets. Et ce sera une sorte de Téléthon pour la forêt. Donc les gens pourront faire des dons en direct du coup à France Nature Environnement. Enfin, c'est France Nature Environnement qui fait partie des experts qui vont gérer ces dons et du coup les réattribuer ensuite aux projets concrets, aux projets locaux sur le territoire. Donc ce sera vraiment du soutien du soutien à tout ce travail mené par de nombreuses associations sur le terrain. Voilà, et du coup, pour finir aussi, les quelques dates à venir, mais qui n'auront pas forcément de lien avec la forêt, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est surtout, on voulait parler là de la Semaine européenne de réduction des déchets qui approche. Donc, elle aura lieu en novembre, du 19 au 27 novembre. Alors partout en France, il y aura des actions proposées, mises en place pour favoriser la réduction des déchets, pour essayer de proposer quelque chose de concrets que les gens peuvent mettre en place directement par eux-mêmes pour que tous ensemble, on essaie de produire moins de déchets. Donc nous, comme d'habitude, ça va être une semaine très chargée pour nous. Alors, il y a des choses qui sont déjà prévues, il y a des choses qui se mettent encore en place. Alors, notamment, nous voulons organiser la visite de la ressourcerie de Haute-Provence à Sainte-Tulle. On l'a déjà fait il y a quelques années, mais bon, c'était il y a très longtemps et les choses ont peut-être changé. On veut le reproposer cette année pour parler du textile et du coup de la filière de réutilisation du textile, des déchets textiles, pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de l'impact de cette industrie, de l'impact de cette filière sur l'environnement, que ce soit à l'étape de la production ou ensuite à l'étape où malheureusement les déchets sont créés. On ne le voit pas forcément, on ne le voit pas toujours, on n'a pas l'impression que c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est une filière qui a un impact énorme et les déchets textiles, il y en a, c'est monstrueux la quantité des déchets produits. Donc du coup, ce sera l'occasion de voir ces quantités-là par ses propres yeux pour vraiment mieux comprendre les enjeux et également voir aussi la partie proposée à la ressourcerie où on peut acheter des vêtements d'occasion. Donc tout ça, ça va contribuer à la réduction des déchets de textiles. Et nous aussi, nous allons proposer une réunion, une restitution pour les élus, les techniciens de toutes les communes de notre département et de toutes les intercommunalités intéressées. On veut présenter les résultats de notre projet Gaspi c'est fini, dont Amélie et Fanny vous ont parlé à la dernière émission. Et du coup, là, l'objectif, c'est vraiment de le présenter aux élus, aux techniciens, pour leur montrer ce qui est possible à faire sur leur territoire, ce que eux tous ils pourraient faire, essayer de leur faire vraiment notre retour d'expérience pour expliquer ce qui était plus facile à mettre en place, ce qui était plus compliqué, où on a pu avancer, où il y a eu des difficultés et quelles sont les priorités d'action à venir, pour qu'ils puissent aussi voir si ça pourrait les intéresser de mettre cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans leur commune ou dans leurs intercommunalités. Voilà, donc ça, ce sera le dernier vendredi de la CERD, de la Semaine européenne de réduction des déchets. Alors j'en parle, ce ne sera pas forcément ouvert au grand public, mais en tout cas, nous invitons toutes les personnes qui travaillent, qui dans leur travail en tout cas ont en lien avec l'alimentation et du coup qui voient le gaspillage alimentaire et sa production. Donc nous les invitons à venir pour voir comment mettre en place les démarches pour lutter contre.
Lisa et Kélilia, merci. C'est déjà l'heure de nous quitter. Donc on retrouve toutes ces informations sur le site fne04.fr.
Tout voilà. À fait.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup, Odile. À bientôt, au revoir.